VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Conakry, 14h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. Au Tchad, des affrontements entre l'armée tchadienne et des éléments armés qualifiés de terroristes par N'Djamena ont eu lieu mercredi à Miski, au Tibesti, une zone du nord du pays peu contrôlée par le gouvernement tchadien. Les forces de défense déployées dans le département de Miski ont été attaquées par un groupuscule de terroristes, affirme un communiqué de l'état-major général des armées tchadiennes. Le texte, qui ne donne aucun bilan humain, souligne que la situation est sous contrôle, sans donner de précision sur les terroristes incriminés. Selon des habitants cités par les médias locaux, les forces armées tchadiennes ont fait usage à Miski de moyens aériens et d'artillerie qui auraient fait des victimes civiles. Mais l'information n'est pas confirmée de sources indépendantes. L'extrême nord du Tchad, qui regroupe les régions de Borku, de Lédi et du Tibesti, est une immensité désertique aux montagnes présumées riches en métaux précieux, habitée par des Toubous. Peu contrôlée, cette zone est propice à de nombreux trafics entre le Tchad, le Soudan, le Niger et la Libye. Plusieurs groupes rebelles tchadiens sont basés dans ces pays frontaliers. République démocratique du Congo, l'opposition à RDC est divisée au sujet d'une marche prévue demain vendredi. L'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, se tient à l'écart et appelle à aller aux élections avec ou sans la machine à voter, très contestée actuellement. Mais les autres partis d'opposition ne sont pas d'accord et veulent justement manifester contre la machine à voter et les 25% d'électeurs sans empreinte digitale. Le secrétaire général adjoint du Mouvement pour la libération du Congo, MCL, Fidel Babala, affirme que son mouvement est déterminé.
Jusqu'à preuve du contraire, la machine à voter, on ne peut pas considérer que la RDC devienne un vaste champ d'expérimentation pour la machine à voter, compte tenu de la configuration actuelle sociologique et au niveau de l'éducation de notre population. On ne peut pas prendre ces risques. Il s'agit de pouvoir capter la volonté du souverain primaire qui doit être claire, transparente et crédible. Nous avons la détermination de faire en sorte que cette machine soit écartée du processus électoral. Nous ne sommes pas les seuls. La société civile voudrait aussi faire écarter cette machine. Je vous informe qu'il y a une pétition qui est en cours au niveau du comité laïque de coordination et nous appuyons, nous, l'opposition pour que la majorité de notre peuple démontre leur rejet de la machine à voter.
Fidel Babala, le secrétaire général adjoint du Mouvement pour la libération du Congo, MCL. Au Congo, Brazzaville voisin, les populations qui sont revenues dans le pool après le récent conflit dans la région tentent de se donner un nouveau destin. C'est dans une savane à perte de vue où poussent de gros arbustes que, par exemple, les déplacés de Missié-Missié dans le district de Mindouli ont cherché d'ouvrir avec des outils aratoires 7 km de route dans un sol sablonneux. Grâce au vivre du PAM, le programme alimentaire mondial, financé par le gouvernement américain, ces retournés de guerre du pool veulent rapidement rendre accessible leur bassin de production au marché local. Le reportage de notre correspondant Arsène Séverin qui s'est rendu sur les lieux.
Ce bruit de scie à moteur pour couper les arbres rompt avec le silence lugubre qu'a imposé pendant 2 ans le conflit armé à Missié-Missié dans le district de Mindouli. Ici, les populations qui avaient fui commencent à revenir et il faut organiser une nouvelle vie. Le programme alimentaire mondial qui a l'habitude de leur fournir de la nourriture fait une nouvelle offre. Jean-Martin Bauer est le représentant du PAM au Congo.
Les gens sont rémunérés en vivres. Ils reçoivent environ l'équivalent de 360 francs CFA par jour par personne dans leur ménage pour travailler sur ce site. Alors ils déblayent, ils désherbent, ils dessouchent. On a élargi le passage ici. Vous voyez maintenant ça fait 4 mètres de large. Donc les véhicules peuvent passer là où le passage était impossible avant. Et donc ça désenclave environ 1000 personnes sur cet axe-là. Ça permettra l'évacuation des produits agricoles, l'accès aux hôpitaux, l'accès aux services sociaux. On pense que c'est un grand progrès pour la zone. Mais là où vous voyez ici, il y avait la forêt. Et maintenant, on a ce passage.
Pour Antoinette Ndigandiodo, ministre en charge de l'action humanitaire, c'est important d'être d'accord de ne plus se faire nourrir gratuitement.
Ce que nous faisons maintenant, c'est le relèvement, la réhabilitation des moyens de vie. Et la route est utile pour cette population pour aller de leur lieu de production vers là où ils peuvent vendre. Au lieu de continuer à donner l'assistance alimentaire gratuite, nous leur donnons l'assistance alimentaire contre le travail qu'ils vont faire.
Une logique accepte volontiers Philippe Mabouaka, chef du village Missié-Missié, mais aussi à la tête de la communauté des travailleurs sur cette nouvelle piste agricole.
Vraiment plus de contour. Et ça va nous servir à faire rentrer les véhicules commerciaux pour que ceux qui sont ici soient bien occupés. Pour les haricots, les gombos, les aubergines, toutes choses qu'on fait à Brazzaville, et même européennes, on les fait vraiment. Les maniocs, les arachides, surtout que les haricots, hein, à des gens qui vont à 300 sacs, 400 sacs. Mais donc, il se posait un problème de déplacement parce que vous comprenez qu'une femme, quand elle quitte à Mokongoto pour venir à Missié-Missié, il faut qu'elle fasse au moins 5 heures de temps. Mais actuellement, maintenant, c'est une heure tu es à Missié-Missié. Donc, on est très content.
L'ambassadeur des États-Unis, Todd Haskell, a fait la visite de terrain et sait maintenant comment est utilisé l'argent du contribuable américain dans le pool.
Maintenant, je crois que c'est un très bon projet parce que les membres des communautés, des jeunes, ils travaillent, ils reçoivent de nourriture, mais aussi ils ont l'opportunité de faire des choses qui sont bonnes pour la communauté. Donc, c'est un projet que tout le monde gagne. C'est gagne-gagne. Et je suis très fier que les États-Unis peuvent jouer un rôle avec des membres de la communauté pour le faire.
En 2017, les autorités avaient lancé un appel à fonds de 23 millions de dollars pour financer le programme de relèvement précoce. L'argent n'arrive toujours pas et il faut bien commencer avec le peu qui existe. De retour de Missié-Missié dans le pool à Mindouli, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest maintenant, Yahya Jammeh, ancien président de la Gambie, dans le viseur des ONG de défense des droits humains. La coalition Jammeh to Justice a réclamé hier justice pour les victimes de l'ex-homme fort de Banjul. Cette coalition exige haut et fort l'ouverture de poursuites contre l'ancien dictateur gambien et ceux qui portent la plus grande responsabilité dans les crimes commis en Gambie. Elle veut absolument que Yahya Jammeh et ses complices soient jugés. À Dakar, Reed Brody de Human Rights Watch revient sur l'importance d'un procès contre Yahya Jammeh.
Les victimes gambiennes ont été inspirées par les exploits des victimes de Issenabré qui avaient trouvé justice ici au Sénégal. Dans le cas des massacres de migrants commis par Yahya Jammeh, les victimes ghanéennes et gambiennes ont décidé de saisir en priorité la justice du Ghana, car le Ghana a perdu 44 de ses citoyens et le Ghana n'est pas impliqué dans la politique gambienne comme l'est le Sénégal. Yahya Jammeh, il est accusé non seulement de ce massacre des migrants, il a abattu des journalistes, il a fait tirer sur des manifestants pacifiques. Il a obligé des séropositives à suivre un traitement bidon contre le sida. Il a fait des littérales chasses aux sorcières. Il y a des milliers de victimes en Gambie qui demandent justice.
Reed Brody, conseiller juridique et porte-parole de Human Rights Watch. En Guinée, tension dans le centre du pays après les violences politiques signalées hier dans les villes de Dalaba et Labé. Des manifestations qui font suite à la mort d'un jeune à Conakry et aussi une accusation de tentative d'assassinat du chef de l'opposition, Sélou Daleine Diallo. Au Mali, l'état d'urgence en vigueur quasiment sans interruption depuis l'attentat djihadiste contre un grand hôtel de Bamako en novembre 2015 qui avait fait 20 morts plus deux assaillants tués a été de nouveau prorogé d'un an à compter du 31 octobre. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le gouvernement. La décision adoptée mercredi soir en Conseil des ministres intervient deux mois après la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta qui a fait de la sécurisation du Mali la priorité de son second mandat. Nous passons maintenant à la Corne de l'Afrique. En Éthiopie, les parlementaires ont désigné à l'unanimité ce jeudi une femme, Sally Work-Zewde, présidente du pays après la démission de celui qui occupait jusqu'à présent ce poste essentiellement honorifique. C'est la première fois qu'une femme accède à la magistrature suprême dans le pays. Madame Sally Work-Zewde devient le quatrième leader de l'Éthiopie depuis l'adoption de la constitution de 1995. Ce texte prévoit qu'un président peut être élu pour un maximum de deux mandats de six ans seulement. Et pour terminer ici aux États-Unis, un colis suspect a été adressé à l'ancien vice-président démocrate Joe Biden, dernier envoi en date d'une série visant les détracteurs du président américain Donald Trump. C'est ce que rapportent ce jeudi plusieurs médias ici aux États-Unis. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.